J'aimerais vous remercier tous et toutes pour votre invitation. C'est un plaisir pour Thomas et pour moi-même d'être parmi vous à Châtenois. Et c'est la première fois qu'on vient, hein, et je découvre une petite église et une belle petite assemblée. Et je suis réjoui pour ça, et c'est vrai que, comme tu le dis, Pierre-Yves, ben, peut-être aussi c'est une occasion pour nous, dans le cadre du Copilor, de cette façon-là, de pouvoir collaborer. Hein. Alors je viens ici à Châtenois, ou je viens de temps à autre à Darney, mais peut-être qu'il faut aussi que certains d'entre vous viennent chez nous à Dizonne. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître, et c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à collaborer ensemble et avoir cette même vision que le Seigneur veut nous donner à nous, Église, je veux dire, de Lorraine. J'ai entendu des prières par rapport à aux souffrances, par rapport aux épreuves que les migrants vivent, et notamment les souffrances aussi des chrétiens dans ces pays qui interdisent l'expression du christianisme, l'expression de la foi. Et je me suis penché sur l'épître de Jacques depuis un certain temps maintenant. Cette épître qui est très pratique pour notre vie chrétienne, cette épître qui va traiter plusieurs sujets, dont la souffrance, dont l'épreuve de la foi. Hein? Bien sûr, il y a d'autres sujets que Jacques traite. Mettre la parole en pratique, ça c'est important pour Jacques. La foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Montre-moi tes œuvres, moi je te montrerai ma foi. Jacques traite aussi de l'usage de la parole. C'est aussi un élément important, et je crois que dans nos églises, on devrait relire Jacques et l'étudier pour davantage, vivre une communion fraternelle de meilleure qualité, et plus en phase avec la parole de Dieu, et plus en phase avec ce que nous avons expérimenté dans notre vie de chrétien. Jacques parle aussi de la sagesse qui nous vient d'en haut. Demandez cette sagesse, c'est ce que nous dit Jacques. Et si vous la demandez avec foi, eh bien vous la recevrez. Il faut la demander avec foi. Et c'est vrai que dans nos vies, on a besoin de cette sagesse pour avancer, pour grandir, pour, servir dans l'Église. Comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, on a vraiment besoin de cette sagesse. Et je vous invite à ne pas hésiter à demander cette sagesse lorsqu'on en a besoin. Et moi, ça m'arrive souvent, puisque je sers à Dizonne, de demander cette sagesse au Seigneur sur tel ou tel, dans tel ou tel domaine, pour vraiment faire la volonté de Dieu et vraiment grandir en tant qu'enfant de Dieu, et faire grandir l'Église aussi. Quand on sert l'Église, ben on est des serviteurs, mais on a envie aussi que les frères et sœurs avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous servons le Seigneur, eh bien grandissent. Puis Jacques va aussi parler des riches, hein, et puis de différents autres thèmes. Alors j'aimerais simplement voir avec vous les premiers versets de l'épître de Jacques, à partir du verset 1, chapitre 1, jusqu'au verset 4. Alors je lis, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Jusqu'ici, ma lecture. Sans faillir en rien. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à étudier Jacques et le lire et le relire, Jacques commence fort, quoi. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. On aurait plutôt envie d'avoir, des promesses de la part de Jacques ou d'autres, dans d'autres livres. On aime se rappeler que le Seigneur nous aime, on aime se rappeler qu'on peut lui faire confiance et qu'il pourvoira nos besoins, qu'il est là, qu'il est présent. Mais lorsqu'il s'agit d'épreuves, lorsqu'il s'agit de souffrances, lorsqu'il s'agit de difficultés, c'est une autre affaire. Et c'est difficile. Parce que je crois que l'épreuve, elle est difficile. Elle n'est pas si évidente que ça. Et pourtant, lorsque Jacques se présente, il se présente en tant que serviteur, celui qui sert le Seigneur, mais celui qui a certainement expérimenté, a vécu l'épreuve. Il sait ce dont il parle. Il sait de quoi il parle. Et Jacques va exposer cette question de l'épreuve d'emblée dans son épître. Alors que Paul va peut-être prendre une autre approche lorsqu'il écrit. Paul va écrire que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que là, Jacques salue l'Église, les douze tribus qui sont dans la dispersion. Il les salue et ensuite, il annonce, la couleur, la question de l'épreuve. Et c'est vrai que l'épreuve n'est jamais facile à vivre. L'épreuve, elle nous trouble. L'épreuve, elle nous remet en question. Elle peut aussi remettre en question notre foi. C'est difficile, si c'est vraiment trop fort, on se demande pourquoi Dieu permet ça, pourquoi on traverse cette épreuve, pourquoi Dieu ne fait rien. Et pourtant, c'est Pierre qui le dit plus loin, après Jacques, dans 1 Pierre, il dit que, et ça c'est quelque chose qui peut être réconfortant pour nous déjà d'emblée, c'est que l'épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Elle est plus précieuse que l'or périssable. Et pourtant, l'épreuve qui est plus précieuse que l'or périssable va toucher les chrétiens qui sont mûrs dans la foi, qui ont un certain nombre d'années derrière eux, tout comme les chrétiens qui débutent dans la foi. L'épreuve ne regarde pas à l'âge. L'épreuve, on ne l'attend pas. Elle vient. Elle peut être soudaine. Elle nous tombe dessus. Quand elle est là, chers frères et sœurs, on ne peut pas l'éviter. Il faut traverser l'épreuve. Il faut endurer l'épreuve. Elle est là. Elle est certaine. Elle est face à nous. Et cette épreuve, nous le savons, chacun dans nos vies personnelles, dans notre Église aussi, elle peut se manifester de différentes formes. L'épreuve peut être une épreuve financière. L'épreuve peut être une épreuve physique, lorsque la santé est défaillante. L'épreuve peut être une épreuve sociale, où on vit le rejet. On pense à nos frères chrétiens qui sont dans l'épreuve dans ces pays qui les persécutent. L'épreuve peut être aussi psychique. Et l'épreuve, frères et sœurs, peut venir de Dieu. Elle peut venir de Dieu. Rappelons-nous que Dieu a mis Abraham à l'épreuve lorsqu'il lui a demandé de prendre son fils, son unique fils, ce fils que Abraham aimait, ce fils qu'il avait tant désiré et qui était là, qui était la joie du Père. Dieu lui demande de le prendre et de l'offrir en holocauste sur l'une des montagnes que Dieu indiquerait à Abraham. Et Abraham va obéir parce qu'il a confiance en Dieu. Alors je ne sais pas ce que Abraham a pu se penser lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, mais en tous les cas il a obéi. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 22, prends avec vous, lorsque Dieu a fourni l'Holocauste, hein, c'était un bélier, voilà ce qu'il dit, l'ange de l'Éternel au verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. À l'issue de cette épreuve, il y avait quand même cette promesse que Dieu avait faite et qu'il a renouvelée à Abraham, c'est qu'il deviendrait une nation grande et une nation puissante. Ça, c'est le premier point. C'est que l'épreuve n'est jamais pour rien. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on fait confiance au Seigneur, nous pouvons avoir cette assurance que lorsque l'épreuve vient, elle n'est jamais pour rien. Il y a quelque chose au bout. Il y a quelque chose qui va permettre que nous allons avoir une plus grande maturité dans la foi. Et puis c'est Dieu qui dit aussi au peuple d'Israël, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, dans Deutéronome au chapitre 8, que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Voilà, Dieu qui éprouve le peuple d'Israël, Dieu qui éprouve Abraham, mais Dieu qui va aussi éprouver le peuple d'Israël. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Donc Dieu éprouve notre foi, peut-être aussi pour éprouver nos dispositions intérieures, pour voir si nous allons continuer à lui faire confiance, pour voir si nous allons continuer à obéir à ses commandements. Et Dieu nous teste. L'épreuve de la foi, c'est ça. C'est Dieu qui nous teste. C'est Dieu qui nous éprouve. C'est Dieu qui veut voir ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Si c'est s'il y a des convictions ou si il y a de la foi, si quelles sont nos dispositions intérieures, nos dispositions de cœur. Et peut-être aussi pour nous faire grandir. Alors, quelle est notre attitude face à l'épreuve? Quelle est notre attitude face à l'épreuve? Frères et sœurs, il y a deux sortes d'attitudes. Premièrement, il y a l'attitude négative. Hein? Prenons l'exemple dans Exode au chapitre 14, lorsque le peuple d'Israël est dans le désert. Le peuple sort d'Égypte. Pharaon et son armée se lancent à sa poursuite et le peuple est dans la frayeur. Il crie à Dieu et il dit à Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que mourir dans le désert. Moïse répond, Dieu combattra pour toi et toi toi, garde le silence. » Et Moïse, donc, qui fait partir Israël de la mer Rouge, ils prennent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvent point d'eau. Ils arrivent à Mara, et ils ne peuvent pas boire cette eau, parce qu'elle est amère. Alors le peuple, une nouvelle fois, murmure contre Moïse, et lui dit « Mais qu'est-ce que nous allons boire ?» Et tous les enfants d'Israël murmurent, et ils disent « Vous nous avez menés dans le désert, dans ce désert, pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Et Dieu qui répond « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alors nous avons là un peuple dans le désert qui face à l'épreuve s'est rebellé, qui face à l'épreuve s'est plaint, il a murmuré, face à l'épreuve il a perdu courage, il s'est apitoyé sur lui-même. Lorsque nous voulons faire face à l'épreuve par nos propres forces, chers frères et sœurs, ça ne va pas marcher. Lorsque nous renonçons, cela déplaît aussi à Dieu. Lorsque nous faisons face à l'épreuve, eh bien le Seigneur nous demande de garder confiance. Il nous demande d'avoir cette attitude positive. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu au chapitre 5. Hein. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » En quelque sorte, Jacques reprend ce que Jésus dit. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Considérer comme un sujet de joie. Et lorsque nous traversons l'épreuve, nous pouvons nous dire, c'est difficile à dire, hein, je sais que c'est pas évident l'épreuve, mais nous pouvons nous dire quelque part que nous sommes heureux. Parce que Dieu est présent, parce que Dieu est notre Père, parce que Dieu s'occupe de nous. Parce que Dieu teste notre foi et qu'il veut nous faire grandir dans notre relation avec lui. C'est Pierre qui redit aussi « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Et nous savons que Christ a souffert. Christ a souffert sur la croix pour nos péchés, il est mort pour nos péchés. Nos péchés ont été effacés à cause de ses souffrances, à cause de cette condamnation qu'il a subie. À notre place. Christ n'était pas exemple des épreuves, mais Christ les a traversées. Et il nous invite aussi à le suivre à travers l'épreuve, à tenir bon à travers l'épreuve. C'est Jacques, nous l'avons lu, qui nous dit au verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. » Alors, ouais. Quelle attitude face à l'épreuve ? Attitude négative, attitude positive ? Et lorsque nous traversons l'épreuve, sachons, frères et sœurs, que l'épreuve produit un fruit. Notamment, le fruit de la patience, le fruit de la persévérance, le fruit de l'endurance. Alors je me suis dit, mais c'est vrai que ce fruit de la patience... C'est le fruit du Saint-Esprit, hein? L'amour, la joie, la paix, et puis tout de suite vient la patience, la douceur, etc., etc. Si Dieu veut faire grandir en nous ce fruit, Dieu utilise l'épreuve. Dieu ne nous donne pas ce fruit de la patience, ce fruit de la persévérance comme ça, et ça vient, et ça y est, on est patient parce que Dieu nous l'a donné, mais c'est à travers notre cheminement avec lui. Et quelque part, notre vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous collaborons avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire naître en nous ses fruits. Si j'attends le fruit de la persévérance, et que, je veux dire, je ne vis pas l'épreuve, je ne vis pas, je veux dire, la difficulté, ce fruit de la patience ne viendra pas. Ce fruit de la patience vient parce que, justement, je suis confronté à l'opposition, je suis confronté à des circonstances dans la vie qui ne sont pas toujours simples, qui ne sont pas forcément non plus catastrophiques, hein, bien sûr. Mais Dieu va travailler en nous cette patience, et la patience va grandir. Et ça, c'est ce fruit d'esprit que Dieu veut voir en nous. Mais j'ai pensé aussi que si nous devons considérer l'épreuve comme un sujet de joie, la joie est aussi un autre fruit d'esprit. C'est pas le moindre. Et à travers l'épreuve, à travers la difficulté, eh bien, nous allons apprendre à développer la patience d'une part, mais aussi cette joie dans le Seigneur. Forcément, elle est que dans le Seigneur, hein, pas dans les circonstances, hein, parce que les circonstances, parfois, elles génèrent pas de la joie, au contraire, elles génèrent plutôt, je veux dire, du découragement ou de la tristesse ou autre. Mais Dieu, dans les épreuves, il travaille en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il travaille en nous. Et il y a ce fruit de l'esprit-là qui grandit et qui va maturer, qui va mûrir et qui va être bon après. Pas bon pour soi, enfin si, bien sûr, mais bon pour les autres. Hein? Parce que lorsque nous vivons notre vie avec le Seigneur, nous la vivons toujours en perspective avec Dieu, bien sûr, dans notre communion avec Dieu, mais nous la vivons aussi avec les frères et les sœurs. Et les frères et les sœurs qui nous voient vivre, qui nous voient grandir, qui nous voient dans l'Église, doivent pouvoir discerner les fruits de l'esprit, sans quoi, je veux dire, notre vie n'a pas vraiment, je veux dire, n'atteint pas le but que Dieu aimerait qu'on atteigne. Et ce fruit de l'esprit est important. Alors, on a parlé du service, bien entendu, mais quel est mon état d'esprit dans le service ? Est-ce que je sers pour dominer ? Est-ce que je sers pour être servi ? Est-ce que je sers pour être vu ? Ou est-ce que je sers parce que j'aime mes frères et mes sœurs, et qu'à travers les différentes épreuves que je peux traverser dans ma vie, hein, plus ou moins importantes selon les périodes de ma vie, eh bien on va voir quelque part un modèle de Jésus. Un exemple de Jésus à travers la patience, à travers la douceur peut-être, à travers la joie. Et l'épreuve pour cela est nécessaire. L'épreuve est nécessaire. On ne peut pas l'éviter lorsqu'on naît de nouveau, lorsqu'on devient enfant de Dieu. Alors elle va être plus ou moins intense selon ce que Dieu veut ou a prévu pour nous, mais selon aussi nos différentes responsabilités, hein. Si on fait des mauvais choix, ou, je veux dire, on peut aussi subir les conséquences de nos actes. Et Dieu les permet, et Dieu nous donne nous fait grâce et nous donne ce privilège de pouvoir toujours nous relever dans l'épreuve. Et même si on a fait un mauvais choix et que ça devient une épreuve, ce mauvais choix, Dieu va toujours essayer de nous ramener là où il veut nous ramener. Et puis, si l'épreuve produit un fruit, l'épreuve a un but. Elle a un but. Hein? Jacques nous le dit dans ce passage, verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que, c'est le but, vous soyez parfait. Voilà. Pourquoi la vie du chrétien, c'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Parce que à travers l'épreuve que Dieu a voulu et que Dieu utilise, eh bien, il va nous amener à la maturité, il va nous amener, là c'est écrit, à la perfection. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, mais en tous les cas, on grandit, on marche, on avance, toujours plus proche de Dieu. Et on revêt Christ d'une façon encore plus grande parce qu'on marche, parce que l'épreuve est là, mais on sait que à travers l'épreuve on grandit et on va revêtir Christ. C'est Paul qui dit revêtez-vous de Christ. Et pour se revêtir de Christ, eh bien, Dieu va utiliser ces circonstances dans nos vies qui sont parfois contraires. Et puis la foi aussi, l'épreuve de la foi aussi, un autre but, pardon, c'est que nous allons faillir en rien. Sans faillir en rien. Et c'est vrai que nous avons ces exemples si nombreux des chrétiens persécutés qui souffrent terriblement, qui sont éprouvés dans leur foi, mais qui sont fermes, ils n'ont pas de défaillance. Et ils avancent, et ils sont ancrés dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, l'épreuve a un but. Elle nous mène à cet état d'adulte que Dieu veut pour nous. C'est pas toujours simple. Elle nous mène à être encore plus fort, à être des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Et le résultat de cette épreuve, nous le lisons dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 7. Le résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ paraîtra. Alors on peut vivre une vie d'épreuve, mais on sait que le but ultime, la finalité de cette épreuve, c'est que Christ paraîtra dans sa gloire et que nous pourrons ainsi être, ces objets de louange et de gloire et d'honneur pour le Seigneur. Tout ce que nous vivons dans l'épreuve, tout ce que nous vivons dans la facilité de notre vie, a pour résultat de glorifier Dieu. Alors, frères et sœurs, pour conclure cette petite méditation et ces quelques pensées, je vous invite ce matin à considérer l'épreuve. Alors je le dis très facilement, mais quand on le vit, c'est pas aussi simple. À considérer l'épreuve comme une amie, afin de développer votre ressemblance à Christ. Peut-être il faut se garder ça dans sa pensée, dans son esprit, lorsqu'on traverse l'épreuve. Eh bien, finalement, l'épreuve est une amie qui va nous aider à grandir en Christ. C'est un peu contraire à ce qu'on voit dans le monde, à ce qu'on entend dans le monde. La vie facile, pas d'épreuve, tout à notre portée. C'est l'esprit du monde. Le confort, la facilité, c'est l'esprit du monde. Mais l'épreuve, la difficulté qui nous conduit à la persévérance, c'est là notre, notre foi aussi. Alors, frères et sœurs, l'épreuve est normale. Elle a une vision à long terme. Et c'est même Jésus qui dit que notre épreuve recevra une récompense. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut demander l'épreuve au Seigneur, c'est pas ce que je dis ce matin. Mais en tous les cas, lorsque Dieu va la permettre dans nos vies, il y aura une récompense. Et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu au chapitre 5. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Paul fait allusion aux sportifs qui acceptent de souffrir en vue d'une couronne dans le stade. Et nous sommes ces sportifs du Seigneur, puisqu'on parle de Coupe du Monde, qui acceptons aussi de souffrir pour remporter le prix de la gloire céleste, de la couronne de vie. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, Paul écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? courez de manière à le remporter, épreuve ou pas épreuve. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors frères et sœurs, lorsque l'épreuve survient, continuons de courir, de marcher avec le Seigneur, parce que nous savons qu'au bout de l'épreuve, il y a cette couronne incorruptible qui nous attend. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, et j'aimerais prier avec vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour Jacques. C'est vrai que la question des preuves, c'est pas une question simple dans nos vies. Elle est peut-être facile à dire, facile à, Seigneur, à évoquer, mais c'est tellement difficile à vivre dans nos vies. Seigneur, je te prie, parce que ta parole est la vérité. Et je te prie pour qu'ensemble, nous puissions, à travers nos épreuves de nos vies, qu'elles soient plus ou moins importantes, que nous puissions vraiment grandir dans la joie, grandir dans la persévérance, afin que tu sois glorifié dans nos vies et que nous devenions ces adultes, ces hommes, ces femmes spirituelles que toi tu veux pour nous, pour ton Église. Béni sois-tu. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.